France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La garde à vue de l'adolescent suspecté d'avoir tué à coups de couteau hier une surveillante de son collège à Nogent a été prolongée ce matin de 24 heures. On ne connaît toujours pas les raisons de son geste. Reste désormais à savoir comment mieux protéger l'école et celles et ceux qui la font vivre. Plusieurs pistes ont été évoquées par le gouvernement et l'exécutif. On les détaillera dès le début du journal. À suivre également une nouvelle journée d'action des taxis. Les chauffeurs réclament toujours l'abrogation d'une nouvelle convention sur le transport de patients. On parlera aussi réforme des retraites à moins d'une semaine de la fin du conclave entre partenaires sociaux. Enfin, on s'interrogera sur les risques d'une possible dérive autoritaire aux États-Unis au cinquième jour de manifestation contre la politique migratoire de l'administration Trump. Le choc est à la mesure de l'horreur ce matin, encore au lendemain de la tragédie au collège rural Françoise Dolto de Nogent, la mort d'une surveillante poignardée par un élève. La sidération demeure en même temps que l'incompréhension, la motivation de l'agresseur présumé, un adolescent de 14 ans sans antécédent judiciaire, reste d'ailleurs pour l'heure inconnu. Et puis devant l'émoi suscité par ce drame et au-delà de la surenchère sécuritaire dont fait preuve une partie de la droite et de l'extrême droite, la question se pose évidemment: comment prévenir ce genre d'agression? D'autant que cette attaque au couteau hier vient aggraver en réalité une très longue série de drames déjà ces derniers mois dans plusieurs établissements scolaires. Alors hier soir, tour à tour, François Bayrou et Emmanuel Macron se sont exprimés à la télévision promettant diverses mesures. On va y revenir dans un instant avec notre invité, mais pour commencer, intéressons-nous à l'une d'entre elles, puisque le chef de l'État a notamment pointé la responsabilité des réseaux sociaux. Jusqu'à quel point sont-ils effectivement de nature à générer de la violence ou à en modifier la portée? Et puis surtout, Emmanuel Macron dit vouloir interdire leur accès aux moins de 15 ans en France. Comment? Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Ça n'est pas la première fois que cette piste est évoquée, mais surtout sa mise en place s'annonce a priori, Diane, extrêmement compliquée.
Oui, Emmanuel Macron en parlait déjà il y a un an. La ministre déléguée en charge du numérique, Clara Chapaz, a de nouveau mentionné ce projet. Il y a un mois, il s'agirait de mobiliser les acteurs européens pour interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. Si cela n'avance pas suffisamment vite à Bruxelles, agir au moins au niveau français. Mais il faut rappeler que des textes existent déjà. La loi sur la majorité numérique adoptée en 2023. Un mineur de moins de 15 ans doit avoir l'autorisation de ses parents pour s'inscrire sur un réseau social, mais ce n'est pas entré en application. La plupart des réseaux sociaux se disent aussi interdits aux moins de 13 ans, mais sans vrai contrôle. Pour aller plus loin, il faudrait par exemple vérifier les papiers d'identité de l'utilisateur ou identifier son âge via de la reconnaissance faciale. Des dispositifs lourds et contraignants. On a vu récemment la réaction de plusieurs sites pornographiques qui refusent tout simplement de contrôler l'âge des internautes. C'est pourtant possible selon Justine Atlan, directrice générale de l'association e-enfance, mais elle voit aussi d'autres pistes.
Parallèlement, sont menés des travaux avec des lignes directrices qui ont été éditées par la Commission européenne, qui vont contraindre très fortement les réseaux sociaux dans justement tout ce qu'ils sont capables de proposer aux mineurs. Et avec, franchement, voilà, si toutes les lignes directrices sont adoptées, une proposition des réseaux sociaux beaucoup moins addictogène, avec des contenus beaucoup plus adaptés, beaucoup moins de fonctionnalités, qui permettent finalement aux jeunes de commencer à appréhender les réseaux sociaux, à apprendre à s'en servir avant de basculer dans le monde des adultes.
Un volet pédagogique indispensable selon elle pour que les plus jeunes puissent aussi apprendre donc à utiliser de manière raisonnable ces plateformes. L'interdiction pure et simple pourrait en pousser certains vers d'autres sites moins surveillés des autorités.
Merci Diane Berger. Alors ce drame de Nogent témoigne-t-il d'une forme de dérive de la société? On en parlera dans un instant avec notre invité dès qu'on aura rétabli la liaison. En attendant et après une pause d'une semaine et demie, les hostilités reprennent aujourd'hui du côté des taxis. Barrages filtrants, blocage des aéroports parisiens, mais aussi une manifestation devant le ministère de l'économie et des finances. Les chauffeurs dénoncent notamment la concurrence déloyale à leurs yeux des chauffeurs VTC, puis ils protestent par ailleurs contre une convention qui modifie leur rémunération pour le transport des patients, alors même que cette activité représente pour certains une part significative de leur chiffre d'affaires, notamment en zone rurale. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Depuis le début des discussions, le gouvernement cherche par tous les moyens à prouver aux chauffeurs qu'ils font fausse route en affichant une certaine fermeté, pour cause, puisqu'en pleine préparation d'un budget 2026 qui s'annonce périlleux à la recherche de quelques 40 milliards d'euros d'économies, eh bien, céder face aux taxis, Rosalie, ce serait ouvrir la porte à de multiples contestations sectorielles.
Oui, il n'y a pas de changement dans le discours de l'exécutif. À la sortie de sa réunion matinale avec les taxis, le ministre Yannick Neuder se montre ouvert à la discussion, mais la discussion à la marge. Le cadre général reste le même.
Ça va être surtout la résultante financière, de voir si on arrive au même rendement de la réforme qui était proposée, puisqu'il y a un objectif financier de non-augmentation des dépenses de transport, calibré autour de 150 millions à l'aune 2027. Donc si avec le même rendement, on peut prendre en compte des paramètres différents.
Et le gouvernement sur ce sujet avance groupé. Sa porte-parole Sophie Prima insistait il y a quelques jours sur le côté raisonnable de l'effort réclamé.
Transport sanitaire, c'est un coût pour la collectivité de 6,3 milliards par an. Ce qui a été demandé comme effort, c'est 150 millions. Donc vous voyez qu'on est sur un effort de 2%. Ce n'est pas un effort colossal.
Colossal ou pas, il faut le faire, martèle François Bayrou, bien conscient que s'il lâche là, à quelques semaines de ses annonces promises sur un budget pour lequel il entend demander des efforts à tout le monde, eh bien il n'y arrivera pas au sommet de son Himalaya.
Mon objectif, c'est qu'on atteigne exactement l'objectif qu'on avait fixé du point de vue des économies nécessaires. La crise des taxis, c'est une des innombrables crises que la France connaît. On ne peut pas aller de blocage en blocage. Il ne se passe pas un week-end sans lequel on n'ait pas ce sentiment-là avec telle ou telle catégorie de professionnels.
Et il ne reculera pas, prévient un de ses proches, qui rappelle l'engagement quasi éternel de François Bayrou d'arrêter enfin de laisser filer la dette. Il préférera, dit encore ce conseiller, tomber en essayant de remettre la France sur les rails budgétaires plutôt que de se coucher en continuant à laisser faire.
Merci Rosalie Lafargue. J'ai comme promis donc retour sur le drame de nos gens hier avec notre invité aujourd'hui, Éric Debarbieux, spécialiste des violences à l'école et auteur notamment de Zéro Pointé, une histoire politique de la violence à l'école, publiée aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On ne sait encore qu'assez peu de choses en réalité sur les raisons exactes qui ont mené à cette tragédie hier. Dès lors, comment faut-il appréhender ce drame? S'agit-il d'une affaire isolée ou bien la manifestation plus large d'un phénomène, comme le laissent entendre certains politiques d'ailleurs qui n'hésitent pas à utiliser des termes tels que l'ensauvagement ou la décivilisation?
Écoutez, effectivement, on n'en sait pas grand-chose encore sur ce cas, qui est donc à attendre les déclarations du procureur après la fin de la garde à vue, etc. Donc, soyons, comment dirais-je, raisonnables. Évidemment, il faut de l'émotion par rapport à la victime. Évidemment, c'est un drame terrible qu'on ne va pas banaliser, justement. Et le drame, c'est quelquefois que la réaction immédiate, c'est la banalisation. Moi, je suis désolé, mais je suis très choqué, par exemple, quand un président de la République s'exprime en parlant d'un déferlement de violence absolument insensée. Non. Soyons clairs, c'est un drame, il faut le penser comme un fait de société, mais pas comme une espèce de longue série où chaque professeur qui rentrerait dans un établissement scolaire risque sa vie. N'exagérons rien. Ayons au contraire du respect pour les victimes, pour l'exceptionnalité de ce type de fait. Maintenant, je vais répondre directement à votre question. Excusez-moi, il y a un bruit terrible dans le téléphone par moment. Par rapport à la nouveauté éventuelle de ce type de choses, on va dire, en revenant un petit peu sur l'histoire longue, plusieurs choses. Un, la violence des mineurs n'est pas en augmentation globale. La délinquance des mineurs n'est pas en augmentation globale. 17% de diminution de la délinquance des mineurs d'après les chiffres même du ministère de l'Intérieur. D'après les chiffres du ministère de la Justice, c'est même encore plus. Par contre, il y a une montée extrêmement limitée qui concerne un certain nombre de cas très difficiles, donc de violences paroxystiques.
Bon. Comment y faire face, monsieur? Alors, les faits qui se sont déroulés hier ont eu lieu, on le rappelle, lors d'une opération de fouille de leur sac en présence de la gendarmerie. C'était une mesure de dissuasion mise en place par le gouvernement. Jusqu'à quel point ce drame témoigne-t-il peut-être d'un manque de compréhension aussi des autorités pour faire face à cette montée de la violence à l'école?
Écoutez, je travaille le sujet depuis maintenant presque 40 ans et je suis un peu lassé qu'on revienne toujours à des solutions qui n'en sont pas, à des solutions dont la recherche en France et ailleurs a montré depuis longtemps non seulement l'inutilité, non seulement l'inefficacité, mais aussi quelquefois les effets pervers, c'est-à-dire la manière dont une école va se couper de ses élèves qui sont considérés comme des sauvages. C'est aussi le cas par exemple des portiques. On la prône à nouveau tout en disant « bah oui, mais ça n'avait pas marché, donc on va réessayer ». Avec un coût considérable, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le retour des vieilles lunes, les solutions simples. Il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de « je vais vous dire en une minute ce qu'il faut faire ». C'est pas vrai, ce serait comment dirais-je, de l'escroquerie ou du, comment dirais-je, me transformer en vendeur de programmes magiques. Non, je suis désolé, ça n'existe pas. Par contre, il faut effectivement analyser ce qui est en train de se passer, qui aggrave les choses. En tant qu'observateur depuis longtemps, j'ai fait des nombreuses enquêtes de victimation en milieu scolaire, auprès des élèves comme auprès des adultes. Hein. Je vois les évolutions. La première évolution, il n'y a pas une augmentation de la violence à l'école. 90% des élèves sont encore en train de répondre, dans toutes les enquêtes, les miennes, mais aussi celles plus récentes de la DEP, par exemple, l'éducation nationale, qu'ils se sentent en sécurité dans leur établissement scolaire. Il ne faut pas l'oublier. On avait déjà des chiffres en 2010, mais même bien avant, où c'est en fait une minorité d'élèves qu'il faut prendre en compte, qu'il ne faut surtout pas négliger, qui répondent qu'ils se sentent apeurés à l'école, souvent pour des raisons qui sont liées au harcèlement, on le sait. Bon, c'est une première chose. Comprendre les faits qu'il y a eu, les faits donc d'armes blanches, ça serait, comment dirais-je, totalement illégitime de penser que c'est exactement le même mécanisme. Hein. Est-ce que ça a à voir le narcotrafic dans les quartiers nord de Marseille avec l'affaire qui vient d'y avoir? Bien sûr que non, sauf sur une chose. Ou avec l'affaire de Nantes? Bien sûr que non, sauf sur une chose. Ce sont des garçons. Ce sont des garçons qui sont des agresseurs. Et là, ce qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est la manière dont ce qui monte dans les écoles au niveau de la violence à l'école, c'est une violence, je dirais presque, quelquefois, et je ne vais pas dire que c'est le cas au niveau de ce cas que je ne connais pas, hein, c'est une violence qui est d'origine, on dira, masculiniste. On dira très liée, par exemple, à la manière dont à Nantes, c'est quoi? C'est un féminicide, il faut se le rappeler, hein, dont les victimes sont souvent des femmes et dont les agresseurs sont le plus souvent, voire presque exclusivement, des hommes. Or, le discours qui est actuellement majoritaire, je dirais, à droite, à l'extrême droite et quelquefois à l'extrême centre, c'est un discours de rejet de l'autre. C'est un discours qui ne fait que rajouter l'exclusion. Or, le harcèlement à l'école, par exemple, je rappelle que 75% des cas de school shooting, par exemple aux États-Unis, sont liés à donc des faits de harcèlement au milieu scolaire, que ce harcèlement est très sensible à la donne idéologique, à la manière dont les adultes eux-mêmes transmettent une espèce de fascination, une espèce de légitimation de la violence. Et ça, effectivement, sur les réseaux sociaux, certes, sur l'Internet de la haine, bien entendu, mais aussi dans le discours politique lui-même. Et c'est ça qu'il faut dénoncer.
Et l'on terminera d'abord par ces mots. Merci beaucoup, Éric Debarbieu, donc spécialiste des violences à l'école. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Zéro Pointé, une histoire politique de la violence à l'école, publié chez Les Liens qui Libèrent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aline Biette pour la préparation.
À partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain, les partenaires sociaux se réuniront pour les deux dernières rencontres du conclave consacré aux retraites.
Lancé à l'initiative du Premier ministre, ces discussions sont censées améliorer la réforme adoptée en 2023 qui, faut-il le rappeler, recule l'âge de départ à 64 ans. Sauf que le dit conclave, démarré début février, n'a pour le moment rien donné de concret. Pis encore, puisqu'une partie des syndicats et du patronat a même déjà quitté la table des discussions, reste notamment le premier syndicat, CFDT, et le MEDEF, l'organisation patronale qui a désormais, Wafia Kenich, clairement livré ses pistes privilégiées.
Le MEDEF pose d'abord en préambule son refus de revenir sur l'âge de départ. Pour la principale organisation patronale, le déficit est tel qu'il lui semble impossible de revenir sur les 64 ans. Mais, et c'est justement là-dessus que la CFDT demandait un effort, le MEDEF est prêt à bouger sur deux thèmes, les carrières des femmes et la pénibilité. Sur ce deuxième point, l'idée est de réviser le compte professionnel de prévention pour qu'il tienne compte de trois nouveaux critères. 1. La manipulation de charges lourdes. 2. Les postures pénibles. 3. Les vibrations mécaniques. À l'heure actuelle, 6 critères sont pris en compte dans ce compte prévention, un dispositif qui permet d'engranger des points pour financer une reconversion professionnelle ou pour partir plus tôt en retraite. Là-dessus, la CFDT milite depuis longtemps pour faire entrer ces trois nouveaux critères. Idem sur les carrières des femmes, le MEDEF veut faire en sorte que la maternité n'impacte pas le déroulement de carrière. L'idée est de permettre aux femmes ayant acquis des trimestres supplémentaires liés à la maternité de bénéficier d'une amélioration de leur niveau de pension. Comment ? En modifiant le calcul du salaire annuel brut. Concrètement, ce salaire pourrait être calculé non plus sur les 25 meilleures années, mais sur 23 ou 24 ans, ce qui mécaniquement améliorera leur niveau de pension. Enfin, en ce qui concerne les cotisations patronales, pour le moment, le MEDEF estime qu'elles sont déjà trop élevées.
Adulée comme une mère politique à la fibre sociale pour les uns, honnie comme une populiste corrompue pour les autres, l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner a vu sa condamnation à 6 ans de prison confirmée hier par la Cour suprême, de même que sa peine d'inéligibilité à vie, un séisme politique en même temps qu'un symbole s'agissant de la figure omniprésente de la gauche ces 20 dernières années.
Lui se dit victime de persécution politique.
Lui, c'est Jair Bolsonaro. Lors de son procès hier devant la Cour suprême, le président brésilien d'extrême droite a notamment invoqué Dieu et la Constitution pour tenter de convaincre les juges que les accusations de tentative de coup d'État qui pèse contre lui était infondé. Au 5e jour d'affrontement à Los Angeles entre forces de l'ordre et manifestants opposés à la politique répressive de l'administration américaine à l'égard de l'immigration clandestine, est-on sur le point d'assister à l'avènement d'une autocratie après avoir réquisitionné la garde nationale contre l'avis du gouverneur de Californie, puis envoyé des Marines? Donald Trump menace à présent de recourir au régime d'état d'urgence tout en promettant, je cite, de libérer la ville d'une invasion d'ennemis étrangers. Et dans le même temps, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a lui annoncé hier soir qu'il ordonnait à son tour le déploiement de la garde nationale. Alors tout cet épisode, devenu en quelques jours l'objet d'une rivalité politique intense entre l'administration Trump d'un côté et puis les dirigeants du Parti démocrate de l'autre, n'aurait peut-être pas eu lieu, ou à tout le moins pas dans de telles proportions, sans un homme devenu l'architecte et même l'idéologue aujourd'hui de la politique du président en matière d'immigration, avec pour ambition de purger la société de ses clandestins associés à des criminels. Son nom, Stephen Miller, le chef adjoint de l'administration républicaine. Son portrait est signé Nicolas Teilhard.
L'homme de 39 ans, crâne rasé, caractère bien trempé, est sans doute aujourd'hui celui qui murmure le plus fort et le plus souvent à l'oreille du président. À l'origine des consignes données aux agents de l'immigration pour muscler les chiffres d'expulsion récemment, il incarne cette fermeté affichée vis-à-vis des étrangers qu'il décrit volontiers comme des criminels ou des envahisseurs. Miller fait depuis longtemps de l'immigration une obsession et désormais un enjeu de civilisation. Los Angeles est, dit-il, la preuve que l'immigration de masse détruit les sociétés. Il faut dire que cet idéologue connaît bien la région pour avoir grandi à Santa Monica, sur ces terres progressistes qu'il exècre. Cultivant ses réseaux identitaires dès le lycée, il connaît ensuite une ascension fulgurante, intègre la Maison Blanche dès le premier mandat de Trump, dont il écrit les discours et influence déjà la politique migratoire, poussant notamment aux séparations forcées de familles en situation irrégulière. Signe de sa loyauté absolue, il participe activement à la contestation des résultats du scrutin présidentiel de 2020, avant de s'activer au retour au pouvoir du milliardaire, avec pour mission de transformer l'aplomb du président en or politique pour le camp conservateur.
La chaleur est restée la nouvelle norme dans le monde le mois dernier.
Sur Terre comme sur les mers, les températures restent inhabituellement élevées. En un an, le réchauffement atteint plus 1,57 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis dans le même temps, voilà qu'un réseau scientifique nous alerte sur la disparition de plus en plus rapide de la banquise. Entre le 15 et le 21 mai, la glace du Groenland a fondu 17 fois plus vite que la moyenne. Un phénomène qui s'explique justement par une vague de chaleur historique. Emeline Bonavent, bonjour.
Bonjour.
Et comme à chaque fois, le coupable reste toujours le même, Emeline, le réchauffement climatique.
Il a fait 26 degrés le 15 mai dernier en Islande. Ça ne paraît pas exceptionnel vu de la France, mais c'est inédit pour l'île proche de l'Arctique. Les températures du mois de mai ont dépassé de 13 degrés la moyenne journalière observée à la même période entre 91 et 2020. Même chose au Groenland, la journée la plus chaude enregistrée dépasse de près de 4 degrés le climat de l'ère pré-industrielle. Et la quasi-totalité des stations météorologiques de la région ont détecté des records de température. Selon les recherches de World Weather Attribution, l'Islande et le Groenland ont 40 fois plus de chances de connaître de fortes températures avec le dérèglement du climat actuel. Résultat, la glace fond à toute vitesse, 17 fois plus rapidement que la moyenne à la fin du mois de mai au Groenland, ce qui entraîne la rupture de la banquise et de graves conséquences pour la population qui en dépend, que ce soit pour pour les déplacements ou pour la pêche. Sans banquise pour réfléchir le soleil, les océans se réchauffent plus vite. Donc les espèces de poissons d'eau froide comme les crevettes migrent vers le nord. Une migration qui a des conséquences écologiques mais aussi économiques. La pêche représente près de 40% des exportations de l'Islande.
Merci Emeline Bonavent. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi estival sur l'ensemble du territoire. Même si en soirée une dégradation orageuse touchera l'Aquitaine et quelques averses se produiront aussi sur le sud de la Bretagne et la Vendée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 19 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.